Il n'y a pas forcément de recoupement entre ce que les archéologues, les ethnologues, les musiciens attribuent à celtique et ce que nous, les linguistes, attribuons au mot celtique. Dans la linguistique, notamment la linguistique historique, le terme de celte désigne une personne qui parle d'une langue celtique, une langue de la famille des langues celtiques, notamment le gallois, le breton, l'irlandais, et ainsi de suite. Et une personne qui la parle, cette langue, peu importe son héritage culturel, est un celte.
Bonjour, je suis Manon Six, je suis conservatrice au Musée de Bretagne et je suis commissaire de l'exposition Celtique.
Et justement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu du message de l'exposition? Est-ce que ça questionne le rapport entre la Bretagne et l'histoire celtique?
Alors, ce qui nous intéressait en effet, c'était d'aller interroger l'héritage celtique de la Bretagne, qui est souvent communément admis, en tous les cas très foisonnant dans la sphère contemporaine, qu'il s'agisse du tourisme, du marketing, de la communication. On emploie ce terme un petit peu de manière très abondante. On utilise aussi des symboles, le triskel par exemple, et puis tout un tas de références aux druides, aux forêts mystérieuses, ou au cycle arthurien. Et ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de comprendre pourquoi la Bretagne cristallisait à ce point cette image celtique plus qu'un autre territoire en France. L'exposition est très transchronologique. Elle va aller chercher du côté des Celtes de l'Antiquité, les Gaulois, on va dire, jusqu'à notre période très contemporaine. À toutes les étapes, on va essayer de pouvoir poser la question d'une spécificité de la Bretagne, enfin de la péninsule armoricaine dans un premier temps, parce qu'elle ne s'appelait pas encore la Bretagne. Donc à l'âge du fer, la période des Gaulois, c'est-à-dire des Celtes de l'Antiquité, on montre au public que le territoire était en effet bien appartenant à cette Europe celtique, mais pas plus qu'un autre territoire. Ensuite, c'est en effet plutôt le Moyen-Âge qui va nous intéresser. Et là, il y a déjà un début de caractérisation, puisqu'au Moyen-Âge, avec cette période des migrations bretonnes, celle des populations de Grande-Bretagne vers la Petite-Bretagne, il y a en effet des liens qui apparaissent. Alors, ces grands bretons de l'époque, ce sont des Celtes insulaires qui viennent aussi de ces grands mouvements de population de l'âge du fer, mais qui avaient traversé la Manche et qui s'étaient installés dans les îles britanniques. Et eux avaient conservé sans doute des traditions, une culture matérielle celtique. Et puis aussi, bien sûr, à cette période-là, la langue de Grande-Bretagne, le britonique, va venir amalgamer la langue gauloise préexistante en armorique, tout ça pour donner le vieux breton, puis le breton.
En émigrant, on introduit une langue celtique qui va devenir le breton. Mmh. Là, je pense que c'est là, comme ça.
C'est Favreau, elle appelle Favreau.
Le vieux breton serait un mélange de gaulois et
de britannique.
Le britannique ayant donné, oui, le cordonnier. Ah ben, par contre, il passe par une étape intermédiaire, qui est l'influence gaulois.
À partir de la période qui arrive après, le restant du Moyen-Âge, puis surtout le 18e, le 19e siècle, va se passer un phénomène de construction identitaire qui a été souhaitée. Cette partie est notamment centrée sur la celtomanie du 18e siècle. Alors, la celtomanie, c'est un courant, c'est un engouement de figures plutôt intellectuelles, hein, d'érudits, qui vont véritablement se pencher sur ces traditions orales et fabriquer finalement les récits authentiques d'une nation en se disant, mais finalement, nous ne sommes pas tout droit issus de cette merveilleuse civilisation gréco-romaine. Et donc ce phénomène, il va apparaître un petit peu partout, particulièrement en Bretagne, puisqu'entre la fin du 18e et le 19e siècle, le breton, par exemple, la langue, va être considérée comme peut-être la langue la plus pure qui émanerait tout droit du gaulois. Donc forcément, la région devient presque un conservatoire de cette culture celtique plus qu'un autre territoire en France. On va aussi, à partir de cette période, attribuer de manière erronée les mégalithes aux Celtes, parce qu'il fallait trouver des monuments pour ces Celtes qu'on était en train de redécouvrir. Malheureusement, bien sûr, c'est une erreur, ils datent du néolithique et pas du tout de la période celtique. En tous les cas, c'est une quête tous azimuts, à la fois de récits populaires, on fait des recherches historiques, on se penche sur les origines de la langue, on fait des premières découvertes archéologiques, et on voit dans le paysan breton de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle comme un héritier direct du Gaulois. Bon, c'est un petit peu, en effet, fantasmé.
Qu'est-ce qui vous plaît dans l'expo, au niveau de du format, peut-être ?
C'est une exposition objective, pas subjective. C'est vraiment une exposition d'historien, de chercheur, et qui n'essaye pas de détourner la vérité.
Comment vous vous positionnez, vous, justement, par rapport à cette identité celte, bretonne ?
Bah écoutez, oui, moi je me sens bretonne avant toute chose. Et je me dis qu'avant d'être bretonne, moi, il y a ce côté celte hein, qui était donc important.
Et pour revenir à cette exposition, est-ce que le but justement c'est de démêler le vrai du faux ?
Alors notre propos en effet est véritablement d'établir que tout ce phénomène est une construction intellectuelle. Ce qu'il en ressort, c'est que la Bretagne a construit de manière volontaire ce phénomène qui s'est nourri. Et il s'est nourri à toutes les périodes. Le régionalisme par exemple, entre la toute fin du 19e et puis la première moitié du 20e siècle, va énormément affirmer aussi profondément ce caractère de l'identité bretonne qui va être teinté des premières relations interceltiques qui s'appelait au tout début le panceltisme. C'est un celtisme qui va devenir beaucoup plus culturel après la Seconde Guerre mondiale, avec un premier revival culturel et musical surtout dans les années 50, et puis un second dans les années 70, celui que les gens connaissent sans doute le mieux, qui est incarné par des figures très importantes comme le protagoniste Alan Stivell, qui va bien sûr positionner cette culture aussi sur la scène internationale, et c'est très important. C'était important pour la Bretagne de faire aussi cette redécouverte musicale de son propre patrimoine. Le celtisme a certainement alimenté la recherche musicologique bretonne, de la musique bretonne.
Alors dans les années 1970, il y a eu ce qu'on appelle un revival, un renouveau des musiques bretonnes, qu'on a appelé renouveau des musiques celtiques, parce que cette musique, les acteurs de cette musique ont emprunté aussi bien des airs que des instruments aux pays voisins. Et ce renouveau s'est habillé d'ornements celtiques, le triskel, les hermines, etc., les entrelacs, qui ont été la parure de ce...
Et on parlait tout de suite d'Alan Stivell, justement, il a participé à cette exposition qu'il a parrainée. Comment il a guidé un peu le travail sur cette exposition ?
Nous avons eu la chance de recevoir en prêt l'une des harpes d'Alan Stivell. Alors, nous n'avons pas forcément choisi la première, c'est-à-dire la Telengentan, qui est une harpe vraiment emblématique, qui a été réalisée par son père. Nous avons choisi la seconde, qui est une harpe à cordes métalliques, qui lui a permis notamment de se lancer véritablement sur la scène, notamment celle de l'Olympia en 1972. Et puis nous avons réalisé avec lui un entretien vidéo qui est diffusé dans l'exposition et qui permet de retracer un petit peu la manière dont cette question du celtisme a accompagné sa carrière de manière aussi très éclairée et très lucide.
Et justement, on mentionnait à l'instant la présence de vidéo, la présence de sa harpe, donc il y a beaucoup d'objets. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en plus dans cette exposition ? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui impliquent le visiteur ?
Alors, il y a une sorte de fil rouge qui permet au public d'aller confronter ses propres connaissances par rapport à des clichés qui lui permettent de savoir en fait ce qui est véritablement celte ou pas celte.
Ce serait Alan Stivell. Alan Stivell. On a le choix entre Alan Stivell, Nolwenn Leroy, Éric Tabarly et Vercingétorix. Vous, c'est Alan Stivell.
C'est Alan Stivell. Et le breton, c'est une langue, mais avec peu de locuteurs. On recherche des professeurs de breton, je sais. Et pour vous, le triskel, C'est l'union, l'air, le feu.
Un attrape touriste, un symbole celtique, la réunion de l'air, du feu, de l'eau, oui. Ou la couverture du best-of de Trienne.
Tout est vrai, tout est vrai. Alors, vous êtes à la fois celte passionnée et celte expert. Alors, vous êtes curieuse de ce qui se rapporte avec les deux, des origines. Vous n'avez raté aucune. Non, je ne suis jamais allée à Lorient pour le festival interceltique.
Est-ce que vous avez trouvé ça chouette, ce quiz ?
Oui, c'est drôle.
Et puis, il y a bien sûr des éléments à manipuler, à regarder, à expérimenter, qu'il s'agisse d'un point de vue numérique ou, par exemple, cette fameuse carte des clichés bretons, où le public peut aller encore tester ses connaissances pour pouvoir situer la Cité 10, par exemple, qui est une légende de tradition païenne celtique. Beaucoup d'audiovisuels aussi dans cette exposition.
Alors là, je me trouve devant un panneau avec un écran tactile. Il faut que j'écoute l'extrait et que je reconnaisse l'instrument. Donc j'ai le choix entre trompette, bombarde, cornemuse écossaise et binucos. Un binucos. Écoutez un extrait. Le binucos, vieux biniou en breton, est le plus petit et le plus aigu de la famille des cornemuses. Il comprend trois tuyaux, le sutel, tuyau dans lequel on souffle, le levriade, tuyau mélodique, et un bourdon unique. Cet instrument breton, dont les plus vieilles traces remontent au XVIe siècle, aurait peut-être disparu s'il n'avait pas bénéficié du renouveau de la musique bretonne après la Seconde Guerre mondiale. Le binucos se pratique essentiellement en duo avec la bombarde.
Alors devant nous, on a un mur d'affiches, du coup d'affiches plutôt bretonnes celtiques. On peut retrouver différents styles graphiques, de la photographie, de l'illustration.
Et qu'est-ce qu'on peut lire sur ces affiches ?
Plutôt c'est pour des fêtes celtiques, des concerts.
On a notamment Gilles Servat, Glenn Moore, Alan Stivell, c'est des noms qui te parlent un peu ?
Pas du tout, alors je connais pas du tout. Je suis breton, mais pas vraiment celtique, je connais pas trop. Enfin, je connais les légendes les plus connues, le roi Arthur et tout, mais je connais pas trop sinon toute la culture celtique et tout. Mais ça m'a permis de voir, par exemple, on a vu les tenues de la brigade bretonne, des petites statuettes et tout, qui est sympa à voir et tout. Des beaux tableaux qui retracent l'histoire un peu de la Bretagne et tout, et c'était super cool à voir.
Comment tu t'appelles ?
Cindy.
Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui t'a amené aujourd'hui à visiter cette exposition celtique ?
Moi, je suis en licence d'histoire et histoire de l'art, donc c'est vrai que j'aime bien appréhender ces périodes, tout ça, je trouve ça très intéressant.
Et qu'est-ce que ça t'inspirait, celtique ? Point d'interrogation, quand tu es rentrée, tu avais déjà une idée de ce que tu trouverais ici ? Qu'est-ce que tu es venue chercher ?
Oui, justement, les coutumes, tout d'abord, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir donc ces traditions qui nous ont portées à travers le temps, hein, qui ont évolué.
Et qu'est-ce que tu as pu voir dans l'exposition ? Qu'est-ce qui te plaît, que ce soit dans le fond ou dans la forme aussi ?
J'ai bien aimé, justement, on peut retrouver une approche assez contemporaine, notamment avec les vidéos, tout ça. Donc c'est intéressant, par exemple, de voir l'approche musicale. Encore aujourd'hui, on peut voir, par exemple, de nombreux festivals, tout ça, donc, qui nous portent encore à travers un univers celtique, finalement, surtout qui représente bien la Bretagne, parce qu'on est quand même bien imprégné de ça encore aujourd'hui. Mais après, c'est aussi un retour en arrière, justement. Par exemple, il y a un tableau qui est très intéressant, où on peut voir justement une approche entre une femme, déjà cette apparition par exemple de la religion chrétienne et païenne, donc païenne qui peut nous rejoindre à cet univers celtique. Donc on rentre plus dans un monde qui commence à s'imprégner plus du christianisme et donc délaisser un peu cette culture païenne.
Donc tu as beaucoup apprécié la présence de tableaux entre autres, et ce que ça t'évoquait, et notamment par rapport à l'histoire bretonne, cette évolution. Ok, merci beaucoup à toi. Si je devais vous demander la partie de l'exposition sur laquelle vous avez préféré travailler, qu'est-ce que vous me diriez ?
Alors j'ai beaucoup aimé la partie sur le régionalisme. C'est un moment où s'invente l'image de la Bretagne aussi. Et ça, c'est très important parce que vont se caler à ce moment-là des images durables. Ces images durables, elles ont aussi peut-être un peu figé la Bretagne, un peu enfermé la Bretagne dans ces questions de clichés, les cercles celtiques, la musique celtique, et qu'il faut aujourd'hui maintenant essayer de redynamiser. L'héritage culturel que l'on porte, il est toujours soumis à une réappropriation, à une recomposition. Parfois, on doit le réinventer, mais c'est ça qui est intéressant justement. C'est la manière dont on s'en saisit. Et ce que nous disons aussi dans cette conclusion de l'exposition, c'est que bien sûr, la Bretagne n'est absolument pas seule dans ce phénomène, je dirais presque dans ce mécanisme de construction identitaire. À partir du 19e siècle, dans d'autres régions ou pays européens, cela s'est passé de la même manière. C'est la volonté, bien sûr, de s'affirmer, mais aussi de se distinguer par rapport à l'autre. Et c'est le moyen, en tous les cas, qu'a l'humanité, hein, de se positionner dans une histoire, se servir de son passé pour aller chercher bien sûr son avenir. Et autre phénomène important, c'est que l'exposition raconte qu'on est donc bien fait d'un passé que l'on peut asseoir sur des faits tangibles, des faits scientifiques, mais nous sommes aussi faits d'appétit pour le rêve, le mythe, des choses peut-être en effet moins rationnelles, mais qui ont une valeur aussi importante pour nous permettre de construire notre identité tous les jours.
Alors ici, sur le livre d'or, il y a un mot de Marie-Jeanne. Très belle exposition qui favorise nos interrogations personnelles et collectives sur nos identités multiples et la richesse des diversités ainsi générées. Être breton, ouverture sur le monde. Être du monde, s'ouvrir à toutes les diversités, toutes les rencontres. Juste à côté, on peut lire. Très interactif et intéressant, ça donne envie de souffler dans le biniou et de boire du chouchen.
Je dirais que c'est avant tout une exposition qui a pour but de questionner, d'interroger, et donc nous tenons beaucoup à notre point d'interrogation qui est apposé derrière le mot celtique. C'est une exposition qui prête au débat, puisque certains pourront se sentir parfaitement celtes jusqu'au bout des doigts. L'idée est véritablement de ne pas être dupe de la manière dont se construisent les choses, mais de faire sa propre cuisine avec les éléments qui sont apportés.